matinale, le mag, c'est parti pour une heure de culture et de société avec Charline Vanhoenacker. Tout à l'heure, les révélations du fichier Epstein. On n'a pas fini. Avec Daphné Burki et sa nouvelle tête, il s'appelle Anthony Martiano. Il est réalisateur du film Le rêve américain. Et puis à 9h30, vous retrouverez le débat du jour. Le ministère des Affaires étrangères a lancé un compte X pour répondre aux attaques de Donald Trump et d'Elon Musk. Un compte qui utilise le même langage, des vannes, des mèmes, des détournements. Seulement voilà, est-ce que la République française doit s'exprimer ainsi? Est-ce que la diplomatie française doit parler comme ça, pour ou contre ce compte qui s'appelle French Response? Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Elena Nagapetian remplit des zéniths et fait des hits sur les réseaux sociaux. Elle fait hurler le public avec des histoires bien zinzin et des vannes de cul tellement crues que non, je ne vous en diffuserai pas d'extrait. Pas à cette heure-là, pas un mercredi matin, les enfants sont à la maison. Un jour, la vie d'Elena Nagapetian sera transposée à l'écran. Une série Netflix avec plein de rebondissements. Premier épisode, l'héroïne naît en Union soviétique avant la chute du bloc communiste. Elle a grandi en Russie, connue probablement Moscou sous Boris Eltsine, Saint-Pétersbourg sous Vladimir Poutine. Elle prétend avoir appris le français en regardant M6. On n'est pas obligé de la croire, mais ça fait une super histoire. Portrait numéro 84. Bonjour Elena Nagapetian.
Bonjour Sonia.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va. La Bible d'une MILF paraît aux éditions Robert Laffont. Le spectacle Ça valait le coup continue de triompher partout. En réalité, vous êtes en train de remplir tous les zéniths et dans deux minutes, je vais retrouver mon petit papier. Vous allez aussi remplir deux Olympias. 16 et 17 mai 2026.
Bravo, voilà, super bien retenu, oui, c'est vrai, bien... le 16 et 17 mai. Oui.
C'est fou tout ce qu'on peut dire dans une langue qui n'est pas la sienne.
Apparemment, oui. Oui.
C'est libérateur.
Mais je dis la même chose en russe.
C'est vrai.
Oui.
c'est vrai.
Oui. Je peux pas vous le prouver, mais oui.
Parce que dans le spectacle, vous dites, et dans le livre aussi, que ça fait à peu près une quinzaine d'années que vous êtes arrivée en France, et qu'en réalité, il y a presque plus des libertés d'expression en Russie qu'en France. En Russie, on peut dire gros, on peut dire pédé, on peut même dire gros pédé, du moment qu'on ne parle pas de Poutine.
Oui, c'est vrai, c'est ma blague, à moins que je fais dans le spectacle. Il y a une suite à cette vanne, je vous laisse de décider si on le fait ou pas.
Bah oui.
Alors qu'en France, on ne peut dire ni gros, ni pédé, ni surtout gros pédé, sauf si tu mets Macron dans la phrase.
C'est ça, exactement. Oui. Voilà.
C'est pas un peu trop tôt pour ce genre de vanne à la radio. J'y vais vraiment à tâtons.
À tâtons, exactement, ouais. Dit ça, à tâtons en français. Extrait du spectacle, un moment d'interaction avec les spectateurs. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses dans ce spectacle. On essaye de pas en diffuser des morceaux pour pas, pour pas les gâcher, pour pas les spoiler.
Ina, ok. Tu es venue avec qui?
Ma femme.
On est à Paris, en 2024, c'est autorisé. En Russie, t'aurais pas pu crier ça aussi fort, chaton. Franchement, profite. Comment vous appelez madame?
Magali.
Magali, vous êtes vraiment ensemble ou c'est une blague honnête?
Non,
vous êtes mariés?
Ouais.
C'est vrai? J'ai jamais vu une gouine russe, c'est fou! C'est quoi de sortir, de vivre avec une russe?
C'est challengeant vivre avec une russe.
Oui, c'est challengeant. C'est, rien que ce mot est challengeant. En fait.
C'est pas une histoire, la vôtre, Elena Nagapetian, c'est quasiment une épopée. Donc vous êtes née en Ouzbékistan.
Oui.
Je pense que vous êtes la seule humoriste à Paris à être née en Ouzbékistan. De parents arméniens, ça signifie que vous parlez quelle langue quand vous êtes enfant ?
De parents arméniens, mais aussi russes et même un peu ukrainiens. Ouais. Ça, j'ai rajouté ces trois dernières années.
Est-ce que vous vous inventez non, des origines,
non,
en
non.
fait
Exactement, en fonction de la situation géopolitique de l'endroit où je me situe.
Vous avez bien fait de rajouter un peu d'ukrainien. C'est bien, c'est le moment.
Je m'adapte, vraiment. Mm-hmm. Non, mais c'est vrai, j'ai des origines russes. Vu que l'Ouzbékistan fait partie de l'URSS, la langue officielle, au moment où je nais, la langue officielle est russe partout, donc même en Ouzbékistan, et c'est pour ça, c'est ma langue maternelle, on parle
russe. Donc l'école en russe.
L'école en russe, deuxième langue c'est l'ouzbek, ouais. Mais on parle russe.
C'est ça, et souvenir de l'école, racontez-vous cette fois dans le livre, c'est une maîtresse qui frappe parce que vous écrivez de la main gauche.
Exactement, oui, je suis gauchère, gauchère. Et à l'époque de l'URSS, c'était interdit, donc elle essayait de m'attacher la main. Je me rebellais et elle me frappait avec une équerre sur les mains. Donc ça se passait très mal, surtout c'était mes premières semaines à l'école. Voilà. Donc on a dû changer l'école.
Et surtout, vous dites, les gauchers, c'était interdit, mais pas la violence.
Oui, les gauchers, c'était interdit, mais pas la violence.
Ouais. Mais je dis ça parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va revenir tout au long du spectacle, tout au long du livre et probablement de cette interview. Ouais. Vous avez très vite déménagé en Russie avec votre mère et votre sœur. Donc, c'est bien ça, vous êtes née sous Gorbatchev, c'est ça, à peu près?
Non.
Vous avez connu Yeltsin, oui. Vous avez connu
exactement.
Poutine.
Oui, je suis née en 87, j'ai connu Yeltsin, j'ai connu bien sûr Poutine. Ouais. Et donc, on déménage quand j'ai 12 ans. On quitte l'Ouzbékistan parce que l'Ouzbékistan a pris l'indépendance. On était considérés comme des Blancs parce que nous sommes orthodoxes. Ouais. Et l'Ouzbékistan, c'est un pays musulman. Il y avait énormément du racisme anti-blanc. Et on a cherché à partir n'importe où. Et on a trouvé des connexions familiales en Russie. Et on est parti là-bas.
Qu'est-ce que ça signifie d'avoir grandi sans père? Parce que vous avez vécu, vous avez eu beaucoup de choses, des choses drôles, lumineuses, joyeuses, des choses très difficiles aussi. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'à la fin de votre livre et de ce récit personnel, vous remerciez tout le monde, même ceux qui vous ont fait beaucoup de mal, tout le monde, parce que ça a fait la fille que vous êtes devenue et la force des vannes que vous balancez sur scène. Mmh. Ce père, vous l'avez jamais connu?
Non, je ne l'ai jamais vu. Enfin, je l'ai vu une seule fois, j'avais 5-6 ans, et il est venu signer les papiers afin que ma mère puisse nous amener avec ma sœur dans un autre pays. Enfin, il donnait son accord. Et c'est la première fois où je l'ai vu, mais il ne m'a pas reconnu. Enfin, il ne m'a même pas reconnu physiquement. Donc, après, j'ai essayé de le chercher à plusieurs reprises. J'ai le contacté à 24 ans, il ne m'a pas répondu. Et la dernière fois, c'était cet été, et j'ai trouvé un demi-frère qui m'a dit que mon papa est mort d'un Alzheimer. Ah bon? Donc c'est pour ça qu'il n'a peut-être jamais reconnu tous les enfants qu'il avait fait.
Et donc c'est une histoire terminée. Il arrivera jamais dans votre vie, il surgira jamais.
Malheureusement, non. Mais bon, c'est comme ça.
C'est comme ça.
J'ai trouvé un demi-frère et je sais que j'en ai un autre en Arménie. J'ai plein de demi-sœurs et maintenant je suis libre à m'inventer la deuxième partie de cette histoire parce que j'ai que la version de ma maman.
Ouais. Alors, vous pouvez raconter plein de choses sur scène, à ce micro, etc. Parce que votre mère vit toujours près de Moscou. Elle parle pas français, ni personne de la famille. En fait, vous êtes la seule à être partie. Ça a été une mère à la fois très courageuse parce qu'elle s'est débrouillée toute seule avec ses deux filles en travaillant sur des marchés, etc. En même temps, ça a été une mère très rude. Ça a été aussi une mère violente.
Ouais, elle était très violente, malheureusement, oui. Mais ça, on va plomber l'ambiance de bon matin.
C'est pas grave.
Mais oui, effectivement.
On raconte une histoire.
Oui, c'était très dur pour elle à gérer. Je pense que je me suis rendu compte avec le temps. On a eu cette conversation tout à l'heure. On reproduit peut-être les chemins que nos parents ont produits. Et si on se soigne pas, eh bien, on va être exactement avec nos enfants comme nos parents étaient avec nous. Et ma mère, elle a subi énormément de violence. Elle a perdu sa maman beaucoup trop tôt. C'était pas une époque où on consultait des psys, c'est pas une époque où on essayait d'être la meilleure version de soi-même parce que on réfléchissait qu'à une seule chose, c'est de payer les factures et de nourrir les enfants. Et se retrouver à 24 ans avec deux gamins, avec quelques mois de différence d'âge. Et
d'ailleurs, voilà. Vous dites que vous avez grandi entourée de femmes qui bossait très dur.
Elle bossait très dur.
Et à qui personne ne disait jamais merci.
Exactement, oui. Et malheureusement, j'étais sans souffre-douleur. Peut-être je lui ai rappelé, je ne sais pas, je... Et puis je ne savais jamais fermer ma gueule.
Vous êtes partie très tôt. Hein. Vous l'avez plaquée très, très tôt, votre maman.
À 13 ans, je suis partie, oui. Vivre
de la maison.
Oui.
Vous pourriez nommer tous les petits boulots que vous avez faits avant de monter sur scène, en Russie et en arrivant
en boulang-
en France.
Je travaillais dans une boulangerie. J'ai travaillé dans une boulangerie, donc je vendais des pains et des qui étaient beaucoup moins bons qu'en France. Je faisais des ongles, ça s'appelle prothésiste angulaire, donc je faisais des faux ongles et je faisais aussi des manicures. Je rappelais des talons.
C'est bien, on l'a dit.
Oui. Ensuite, je travaillais dans des boutiques de vêtements. J'ai été maîtresse d'un homme marié. J'ai été assistante de direction. J'ai été assistante personnelle dans les family office, c'est-à-dire j'ai travaillé pour les familles fortunées.
Ça, c'est un truc dingue. C'est-à-dire que vous avez commencé par arriver en France. Vous étiez très jeune, vous aviez une vingtaine d'années, c'est ça ?
En France, j'ai 22, 23 ans.
Ouais. En fait, vous faites tout très jeune et très vite. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous arrivez sur la Côte d'Azur. Vous avez travaillé quand même pour un oligarque russe à Monaco. Quand je dis que même le scénariste de la série Netflix va dire non mais...
J'espère qu'il va m'acheter mon scénario parce que je pense que ça vaut la peine d'être raconté, effectivement.
Ouais. Donc vous travaillez pour la famille de l'oligarque russe qui possède l'AS Monaco.
Exactement, oui. Pendant 3-4 ans, oui, j'ai travaillé dans cette famille.
Ça veut dire qu'on prend des hélicos, on monte dans des voitures incroyables.
Ça veut dire qu'il faut gérer énormément de choses, des déplacements d'un pays à l'autre, parfois plusieurs dans la journée, avec des moyens de transport méconnus
du
grand public, des hélicoptères, des yachts, des jets privés et des demandes. Et il faut être très efficace, très rapide et tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc il faut...
Ouais. Autre extrait du spectacle, autre discussion improvisée avec une spectatrice cette fois.
Il te frappait ? Ah, c'est marrant ça. Donc je disais, j'ai quitté la Russie il y a 15 ans. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Ok, et il est où ? Il est plus là ? Comment il t'appelle ? Céline ? D'accord, il t'a frappé et après, tu veux qu'on le retrouve, fils de là ? Hein ? Tu veux des amis tchétchènes ? Mon bébé, on va le trouver, des amis tchétchènes. On va prendre Sébastien et Thibault, ils vont venir.
Vous l'éludez pas, la violence que vous-même, vous avez vécue, elle vous donne une force inouïe. Sur scène, mais vous ne l'éludez pas. C'est-à-dire ni la violence que vous avez vécue enfant, des adultes, des hommes qui ont abusé de vous, ni celle que vous avez rencontrée en devenant une femme. Et on sent bien que vous êtes toujours sur le fil et qu'il y a un moment, c'est la fin de l'humour. On peut faire des blagues sur tout, mais pas complètement.
Il y a quand même certaines choses. Après, j'arrive quand même dans le spectacle de faire des blagues, même sur les sujets comme la pédophilie, la chose que j'ai malheureusement subie aussi, comme si il me manquait des événements sympas dans la vie. Je pense que le dieu, il était là, là-haut, il dit « Alors, on va rajouter 2-3 incestes. Allez, ça, c'est
Allez.
Bon, ça. »
Je ne sais plus où vous les remerciez, vos oncles, non ?
Enfin, les oncles et les amants de ma mère. Mais c'était... Il y a des choses sur lesquelles, oui, les vieux... Enfin, j'essaie d'être drôle parfois. Là, par exemple, cet extrait, j'ai essayé d'être drôle, alors que ce n'était pas du tout drôle. La femme, elle a subi les violences de la part de son mari. Qu'est-ce que tu veux dire devant 1000 personnes? Il faut faire des blagues. Donc, mais ce n'est pas toujours évident, effectivement.
Ce n'est pas toujours évident.
Oui.
Et vous racontez aussi comment... Comment vous avez rencontré un homme qui vous a vraiment humilié, violenté, rabaissé. Vous racontez aussi comment vous avez été drogué, sadisé. Et d'une certaine manière, vous parlez aux femmes, vous parlez aux filles en disant
oui.
jamais, attention, tout le temps.
Oui, juste faites attention parce que le fait peut-être de grandir sans le papa et ma mère qui n'arrivait pas pour plein de raisons me contrôler, vu notre relation qui était très 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 compliquée. Donc je pars de chez moi très vite, je grandis seule, je vis des choses, je vis à Saint-Pétersbourg toute seule alors que j'ai 17 ans, je dors dans des parties communes des immeubles, dans les gares parce que je n'ai nulle part où aller. Donc il y a effectivement, je pense que c'est encore un miracle que je suis là en face de vous. Et je dis aux filles, faites comme vous le... Enfin, bien sûr, essayez de vous amuser. Les rencontres, c'est super, on est fait pour ça. Mais faites attention parce que Faudrait quand même avoir quelqu'un dans la vie qui pourrait peut-être vous protéger.
Ouais.
Ça serait bien, parce que si vous êtes seul, ça peut mal se terminer. Ouais.
Là aussi, vous avez fait... En fait, c'est même pas une série Netflix, c'est un épisode de Bref. C'est-à-dire que vous rencontrez un garçon, vous vous mariez, vous faites un bébé, hop, vous divorcez, hop, ça y est.
Ouais. Ça a duré la même oui, on a presque la même durée que la série Bref. Oui, en 4 ans.
En 4 ans, voilà. Sauf qu'au moment où votre fils naît, vous vous êtes écroulée.
Oui, mais enfin, j'ai vécu une dépression postpartum très, ouais, très rude, et en même temps, c'est tombé en même temps que le divorce, donc il fallait. Mais ça va aujourd'hui.
Bah ouais, ça va très bien.
Ça va très bien.
Le petit garçon, il est en coulisses.
Il est juste là. Et je me dis, maman, j'espère qu'il n'écoute pas.
Mais si, il écoute. Il sait, il voit une maman absolument rayonnante qui fait rire, mais des millions de gens. C'est-à-dire, ouais, que quand la maman poste une vidéo pour dire on est vendredi, j'ai aucune
envie pas d'aller envie chercher
mon gamin à l'école, oui, j'ai envie de sortir et de faire la fête et de m'envoyer, ouais, en l'air, elle fait 3 millions de vues.
Oui.
Donc.
Mais parce que je reste une femme. Je reste un être humain et...
Ouais.
Et oui, donc je dis les choses. Et ça fait plaisir d'ailleurs aux femmes parce qu'elles se sentent moins seules. Donc c'est génial. C'est super.
Et vous, monsieur, donc vous avez dit que vous aimiez les MILF, c'est ça? Comment ça s'appelle? Maxence?
Oh. Maxence, avec une petite maison en Normandie. On est connu quand même.
C'est ça, Maxence? Ça se voit que t'es un connard, Maxence. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Maxence?
Notaire.
Tu es notaire? Bah, j'étais pas loin. Et vous, monsieur, vous êtes notaire aussi?
Chauffeur de bus.
Vous êtes chauffeur de bus, Maxence le notaire, et Pamy avec un chauffeur de bus?
Qu'est-ce que c'est qu'une MILF?
Une MILF.
C'est super ringard comme expression, non? Une MILF ou pas?
Oui, ouais, vous trouvez?
C'est notre génération. En fait.
Oui, mais bah, en fait, une MILF, c'est une. J'ai appris ce terme en devenant maman, ouais, et j'ai essayé de comprendre. Donc, c'est, en anglais, ça veut dire mother I would like to fuck, et en français.
Une mère de famille qu'on a envie de sauter.
Oui, ouais, une femme sexuellement attirante, avec un pouvoir d'achat et les vergetures et les futurinaires. Voilà, c'est à peu près ça.
Mais, non, ça, je savais pas.
Mais c'est une femme qui se prend plus la tête. C'est génial, il ne faut pas se fâcher. Je trouve que, oui, il ne faut pas le considérer comme une insulte. C'est génial d'être une.
C'est ça, c'est ce que vous êtes. Vous avez quand même, là aussi, ça a été très très vite. Vous avez démarré dans des tout petits comédie clubs avec vraiment personne pour vous regarder, personne pour rire, personne pour applaudir.
Oui, à Pigalle, oui, c'était un tout petit bar. C'était ma première scène en juin 2021, devant 4 personnes, dont 3 travaillaient dans ce bar. Il n'y avait même pas de scène, il n'y avait pas de micro, mais j'étais heureuse avec les chaises dépareillées, comme ça. J'étais très heureuse et ça allait très vite. Il fallait après se faire une place dans des comedy clubs et petit à petit, me voilà en face de vous.
Exactement. Et pas que en face de moi. C'est-à-dire, vous avez aussi fait des chroniques sur France Inter.
Oui.
Voilà, vous remplissez des salles absolument gigantesques, je l'ai dit. Donc, je ne sais pas si on vous invite, par exemple, dans un an, dans 2 ans, tout ce que vous aurez à raconter. Il y aura eu une saison 2, peut-être, de la série Elena Nagapetian sur Netflix. En tout cas, je vous remercie d'être venu nous voir ce matin. Donc, ça paraît la Bible d'une MILF chez Michel Lafon. Voilà, il y a des histoires très dur et en même temps il y a un ton très drôle.
Et oui, il, voilà, y a beaucoup d'humour.
Il y a beaucoup d'humour, c'est ça.
D'humour, et ça permettrait aussi de me connaître un peu plus.
Il y a une force incroyable, quoi, là-dedans, dans ce récit. Il y a le dessin d'un petit garçon, c'est le vôtre, c'est, oui, l'amour de votre vie.
Oui.
C'est l'amour, oui, de votre vie, vous parlez de lui tout le temps.
Oui, je ne vais plus réarrêter.
Ok.
Oui, je l'aime très très fort et j'espère qu'il sera fier de moi.
Mais il sera fier de vous, c'est sûr. Et puis on a 16 et 17 mai, rendez-vous à l'Olympia. Ça, c'est quand même, on est très très loin du minuscule comédie club d'il y a 3 ans. Vous rendez compte, le chemin que vous avez parcouru? Merci Elena.
Merci à vous, merci.
Trouble in my life before, yeah. going down to the river. Gonna get me a rocking chair. If the Lord don't help me, I'm gonna rock away from here. Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always, 'cause the sun's gonna shine in my back door someday. Yeah, the sun's gonna shine my back door someday.
Vous l'avez entendu, ce chef-d'œuvre, Trouble in My Mind, c'était Nina Simone et vous êtes dans le magazine de la Grande Matinale et nous sommes ensemble jusqu'à 10h. À 9h45, Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter. Les nouveaux documents Epstein, c'est un petit peu comme les Panama Papers, à part que c'est pas que de l'argent qui est détourné, c'est aussi des mineurs.
Voilà, ça fait envie. Daphné Burki.
Bonjour, bonjour. À 9h50, ma nouvelle tête s'appelle Anthony Marciano. Il est réalisateur, scénariste, il est en train de réaliser son rêve américain. En fait, c'est le film dont tout le monde parle, le rêve américain.
Tout le monde en
parle. Il faut absolument que je vous le présente.
Allez, il est 9h28 sur France Inter et c'est le débat du jour.
Lorsqu'Elon Musk écrit
« Pourquoi le gouvernement britannique est-il si fasciste ?»
French Response réplique « Une photo de Musk en train de faire ce qui ressemble fortement à un salut nazi. » Une réponse courte mais éloquente, vue plus de 8 millions de fois.
C'est une innovation diplomatique donc qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Elle s'appelle French Response, un compte officiel du ministère des Affaires étrangères sur le réseau X, qu'on appelait avant Twitter, qui veut répondre à la désinformation et aux attaques en adoptant les codes satiriques des réseaux sociaux. Donald Trump, chef d'État, balance des blagues, des détournements, des images fabriquées avec l'IA, des mèmes, soit. Mais est-ce que la France doit utiliser le même langage ? Est-ce que ça n'est pas rabaisser, salir, ridiculiser notre parole officielle ?
France Inter, la grande matinale. Sonia De Villers.
Alors, pour ou contre ce compte French Response, on en débat ce matin avec Pascal Confavreux. Évidemment, on n'allait pas se passer de vous. Vous êtes porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de débattre sur ce compte qui est votre bébé, si je comprends bien, à peu près.
C'est le bébé déjà du ministre Jean-Noël Barrot et puis évidemment ensuite de toute l'équipe et de tout le ministère.
Vous êtes sa nounou, donc voilà. Fabrice Eppelboin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur et enseignant, donc on va commencer avec Pascal Confavreux. Le 10 janvier, donc on l'a dit, Elon Musk, je ne redis pas tout ce qu'on vient d'entendre, mais simplement, du clash, de l'humour, du mème. Toutes les techniques qu'utilisent les trolls, et peut-être que Fabrice Eppelboin nous fera un petit cours sur ce que c'est que le trolling, mais... C'est le langage qu'assume désormais la diplomatie française. Vous êtes là en costume cravate devant moi.
On est attaqué. Nos intérêts, notre image sont attaqués dans le domaine informationnel. Mm. Notre intuition, c'est qu'il faut monter le son, hausser le ton pour pouvoir nous défendre. Et donc, effectivement, aussi adopter les codes sur les plateformes sur lesquelles nous sommes attaqués. Donc c'est ça. On ne change pas la ligne diplomatique. On est pour, bien sûr, le multilatéralisme, la défense de la Charte des Nations Unies, etc. On met une corde supplémentaire à notre arc pour pouvoir, au fond, défendre la France, les Français, nos intérêts dans ce champ hybride qu'est la lutte informationnelle.
La lutte informationnelle sur les réseaux sociaux et particulièrement sur X, je dis particulièrement parce que X est le réseau de Elon Musk et il s'exprime lui-même énormément sur son réseau. Donc c'est, comment dire, s'exprimer là où ont lieu les attaques, c'est mettre le doigt dans des engrenages viraux dont se servent les Américains.
Notre but, c'est d'avoir de l'impact. Donc oui, on va aller...
De l'impact.
C'est d'avoir, comment dire, un canal réactif pour pouvoir répondre très vite dans, face comment dire, à des manipulations d'informations qui peuvent être très virales et qui peuvent être parfois être graves. Mmh. C'est pouvoir aussi apporter de l'information à des audiences qui sont victimes de cette manipulation d'informations et qui peuvent ne pas forcément avoir cette info. Donc on va les poster là où le débat se fait. On a commencé par X Twitter il y a maintenant 3 mois. Ouais, hein, c'est un compte qui est, qui est vraiment tout récent. Il a des bonnes stats. On a 150 000 followers et on a 15 millions à peu près d'impressions par semaine. Mais on y va très humblement. On ne dit pas que c'est l'alpha et l'oméga. On ne dit pas que désormais la parole diplomatique elle est faite uniquement là. Du tout, au contraire. On continue, bien sûr, une parole institutionnelle.
Mais c'est intéressant. C'est aussi un moyen de toucher des gens qui ne lisent pas ni Le Monde, ni Le Figaro,
ni France Inter,
ni Les Échos, qui n'écoutent pas France Inter, qui n'écoutent pas RTL et qui ne regardent plus les
exactement.
Journaux.
Exactement, vous avez une part considérable de personnes qui sont, qui ont leur première source d'information sur les réseaux sociaux. Et par ailleurs, nous, encore une fois, on répond à des ingérences numériques étrangères. Et donc, notre but, c'est aussi de parler aux audiences étrangères, avant tout. C'est ça, notre principale cible.
Fabrice Eppelboin, vous êtes à la fois séduit, mais en même temps assez sceptique face à ce compte et face à son succès. En tout cas, vous mettez en garde contre les dérives possibles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que pendant des années à Sciences Po, vous avez donné des cours justement sur cette culture du mème et du trolling, cette culture politique. Parce que c'est une culture politique, expliquez-nous.
C'est une culture politique, ça a été introduit de façon massive par Steve Bannon lors de la campagne de 2016 de Donald Trump. Sauf que
qui était Steve Bannon. Alors,
Steve Bannon est l'un des conseillers de Donald Trump, sans doute le plus flippant, celui qui représente vraiment ce qu'on peut pour le coup qualifier de fascisme, de white suprémaciste dans la droite américaine qui est très diverse. Et
très complotiste aussi, très conspirationniste.
Oui, si vous voulez. Concrètement, ça reste un intellectuel des médias, un petit génie de la informations, c'est le patron de Breitbart News, et il a mis en place une technique militante qui consistait à haranguer des millions de militants pour produire autant de mèmes quotidiennement et compter sur le phénomène de buzz pour que décomptent les meilleurs qui servent à cette confrontation informationnelle. Donc on a des modalités de production qui sont héritées de sites comme 4chan, donc des entrailles de l'internet et des sous-cultures internet, qui se basent sur une production de masse et une armée de personnes qui font émerger le meilleur pour porter le message. Message qui, à l'origine, est plutôt anonyme, un mème n'est pas signé. Là, on est dans des modalités de production différentes. On a un mème qui est signé du Quai d'Orsay, donc avec des modalités de validation qui forcément compliquent un peu les choses et puis qui obligent d'assumer la paternité du message.
Mais quand même, vous voyez deux cultures se télescoper. Une culture diplomatique, une voie gouvernementale et une culture qui est vraiment une culture du web, du trolling. Alors, on s'attendait pas à ce qu'elles se rencontrent.
Moi, j'ai enseigné ça pendant la guerre informationnelle et la production de mèmes à des fins politiques. J'ai enseigné ça pendant 10 ans dans les masters d'administration publique de Sciences Po. Donc, je me désespérais que ça arrive. Je suis ravi que ça arrive. J'attends maintenant de voir la réalité d'une telle confrontation. Alors, pour l'instant, on en est au tout début. L'objectif, enfin, le résultat concret de cette initiative du Quai d'Orsay, pour l'instant, ça ressemble plus à fédérer une communauté qui fera office d'armée troll le jour où il y aura une vraie confrontation. On est au début, c'est tout à fait normal, et il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est qu'on est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui, le jour où il y a vraiment bataille, on n'en est pas là. Je pense à un énorme leak ou des choses comme ça.
Mais c'est-à-dire que là, en fait, c'est le pot de terre contre le pot de fer, c'est-à-dire qu'en fait, le compte du Quai d'Orsay est minuscule et que les Américains ont une immense antériorité, sont beaucoup plus nombreux à manier ces outils-là.
Les Américains sont sur des phénomènes de masse, sur un phénomène d'un ministère qui communique par les mêmes. Ça arrive, mais c'est relativement récent. La force des Américains, c'est que derrière, il y a des dizaines de millions de producteurs de mèmes qui, en cas de confrontation, et on n'en est pas là, j'insiste, vont tous se mettre à produire du mème pour aller dans une confrontation typiquement avec un pays comme la France, où les relations sont un peu tendues.
Pascal Confavreux, oui, allez-y, répondez.
Non, mais sur communauté, vous avez tout à fait raison, parce que ce qu'on voit depuis quelques jours, c'est qu'on a plein de gens qui nous écrivent en France pour nous dire « ça nous fait chaud au cœur que vous ayez fait ça », etc. Et donc, à l'étranger aussi, pour nous dire, mais...
C'est ce qu'on appelle une armée de trolls. Et pour se battre contre des armées de trolls, il faut une armée de trolls.
Cet aspect de communauté, on ne s'y attendait pas forcément d'ailleurs. Cet aspect communauté de gens qui veulent nous rejoindre.
C'est le but.
Disant, on veut vous aider, on veut vous contribuer.
Mais je suis complètement sciée par ce que vous racontez. Je pense qu'il y a une partie des auditeurs aussi qui ne sont pas forcément familiers de la culture numérique. Ça signifie quoi? Ça signifie que le temps de la diplomatie et le temps des réseaux sociaux sont aujourd'hui identiques. Ça signifie que vous cédez à une forme d'accélération, que tout devient éphémère dans les messages qu'on poste, qu'il n'y a plus des hiérarchies entre des grosses blagues et des images fausses fabriquées pour faire rire et des messages diplomatiques.
Au contraire, ça nous permet ça nous permet de pouvoir préserver la parole diplomatique.
Ouais.
Et la parole du ministre, et la parole, disons, plus généralement du Quai d'Orsay, sur ce que l'on veut mettre en avant. Et d'avoir, être dans cette forme de réaction en passant par un canal qui est différent. Qu'est-ce que le canal French Response ? Donc le ministre, il n'est pas à forcément avoir à répondre à chaque nouveau tweet sur Truth Social, à chaque...
Mais est-ce qu'il faut répondre ?
En tout cas, la parole politique, non, on est calme. Vous avez bien vu, par exemple, sur le Groenland, etc. On nous demandait toutes les demi-heures, ah, il y a cette nouvelle information, que pensez-vous ? Ah, il y a cette nouvelle information, que pensez-vous ? Nous, on était dans une réponse qui était calme, qui était résolue, qui était dans la défense. Voilà, notre position, c'est la défense de la souveraineté, d'un allié, etc. On n'était pas dans une réponse à chaque fois. Par contre, il pouvait y avoir ce canal, par ailleurs, qui s'occupait de répondre et d'être dans cette temporalité qui était beaucoup plus réactive. Donc, au contraire, ça fait vraiment deux cordes différentes.
Fabrice Eppelboin, quand Jean-Noël Barrot s'adresse à toutes les ambassadrices et à tous les ambassadeurs qui ont rejoint la France au mois de janvier pour les inviter à faire de même et à prendre le pas, il y a un moment où vous vous inquiétez quand même de
C'est parfaitement suicidaire.
C'est suicidaire.
Les chances qu'il n'y ait pas un hiatus et un problème dans la production, c'est quand même une culture étrangère, une langue étrangère. Il faut apprendre les codes, il ne faut pas se planter, il ne faut pas faire de contresens. C'est pas à la portée de tout le monde, ça demande une formation, c'est pour ça qu'on enseigne à Sciences Po d'ailleurs. Si demain, tous les diplomates aux quatre coins du monde se mettent à improviser des mèmes, on va avoir des couacs dans tous les sens, on va avoir des incidents diplomatiques.
Mais c'est surtout, on va être complètement ridicule, non ? Enfin, je vous pose sincèrement la question.
Il n'a pas dit à toutes les ambassadrices et ambassadeurs de faire des mèmes tous les jours. Hein. Ouais. Il a dit... Il y a un sujet qui est la lutte informationnelle, qui est un sujet de lutte hybride dans lequel nos intérêts sont attaqués. Il faut qu'on soit dedans. Mais la conclusion, c'est pas que chacun fait les mêmes. Il y a un compte French Response qui est...
Peut-être on peut rappeler ce que c'est qu'un mème. Hein. Un mème, c'est une image qui a beaucoup tourné sur Internet et qu'on détourne.
Le mème consiste à prendre une image qui est totalement assise dans la culture populaire, qui est associée à une émotion chez chacun d'entre nous en l'espace d'un centième de seconde.
C'est ça.
Et sur cette image,
c'est
je vais superposer
un petit bout des Simpsons.
N'importe quoi qui suscite chez vous immédiatement une réponse vraiment de la moelle épinière, de l'ordre de l'émotionnel. Ce qui fait qu'en superposant un message texte, le message texte, je vais mettre quelques dixièmes de seconde à le lire et à l'interpréter.
Ça.
Je vais faire arriver ce message sur un sentiment préinstallé. C'est une technique de manipulation vieille comme le monde. Il y a très peu aujourd'hui de reportages à la télé dans lesquels on ne vous met pas une petite musique qui est là pour installer une émotion sur une information qu'on va vous délivrer par la suite. Mais celle-là a l'avantage de pouvoir être utilisée en une seconde.
Mais est-ce que vous voyez un risque, comment dire, de désinhibition de la parole officielle française ?
Non, de désinhibition de la parole officielle française, je ne pense pas, parce qu'il y a quand même des circuits de validation, c'est des gens sérieux, et j'imagine qu'ils ont très sérieusement étudié les codes. Je vois un problème de montée en charge.
Escalade ?
De montée en charge. La parole française ne pourra pas faire face à, en face, une avalanche, parce que il n'y a qu'un seul compte, avec une seule équipe, et sa capacité à créer des mèmes, même en étant assistée d'intelligence artificielle, sera mécaniquement limitée si en face, on a des millions de personnes qui attaquent. Et l'autre problème que je vois, c'est qu'on est quand même en train d'apprendre une langue étrangère et de parler à une culture étrangère, celle du 21e siècle, avec nos beaux habits de diplomates du 20e et qui datent de bien avant, et qui font toute la grandeur de la France. Donc c'est quand même on est dans un terrain étranger, et au sens de Sun Tzu, c'est forcément un terrain compliqué et dans lequel on est par nature à découvert. Si demain, typiquement, les Américains répliquaient sous forme d'attaque informationnelle à travers du leak, ce dont ils sont friands, qui toucherait la France, et c'est pas comme si ça manquait de dossiers à la CIA qui permettrait de mettre la France en difficulté, on serait dépendant de cette fameuse communauté.
Ne tombons pas dans le conspirationnisme.
C'est la stratégie officielle des États-Unis, c'est pas du conspirationnisme. C'est vraiment dans la stratégie officielle de Peter Thiel qui a fait un éditorial dans le Financial Times pour prôner cette stratégie avant les élections, c'est absolument pas du conspirationnisme. C'est vraiment leur stratégie.
Pascal Confavreux.
Alors, on ne vise personne.
C'est-à-dire ?
On répond à des attaques qui nous viennent. Donc, on parle beaucoup des États-Unis là, parce que, etc.
Donc, on est toujours en défense.
De Russie, il y a des attaques qui viennent de, par exemple aussi, de sphères pseudo-panafricanistes en Afrique. Voilà. Donc, on répond là où on est attaqué. Ça, c'est le premier point. Mm-hmm. Le deuxième point, c'est que sur le sujet lutte informationnelle, et c'est ça que voulait dire le ministre à ses
ambassadeurs.
C'est-à-dire qu'il y a différents éléments. Ça, c'est le truc le plus visible, le plus évidemment, qui choque les esprits, qui marque les esprits. Mais il y a un élément qui est plus traditionnel et qu'on continue à faire, qui est le soutien aux écosystèmes médiatiques et aux journalistes à l'étranger. Mm-hmm. On l'a fait traditionnellement dans le cadre des investissements solidaires, de l'aide publique au développement. Il y a un élément qui est aussi, par exemple, d'augmenter la résilience des Français, de nos concitoyens, sur ces ingérences numériques étrangères. Ça a été, par exemple, des attributions qu'on a faites il y a un an, il y a deux ans, sur, écoutez, voilà des modes opératoires informationnels qui nous touchent. C'était Matrioshka,
c'est Portal Combat, etc. Je pense que c'est le moment d'apporter une précision absolument fondamentale. C'est que ce mode de communication par l'administration Trump, par Donald Trump lui-même et par Elon Musk, se double d'une guerre faite aux médias traditionnels et d'une défiance alimentée envers les médias traditionnels. C'est absolument pas le cas de la France. C'est-à-dire que vous empruntez un canal numérique et vous utilisez ce langage-là sans pour autant... Ou non, ils sont pas dans le même camp, mais je pense que c'est important.
Sans pour autant oublier nos valeurs.
Voilà, nos valeurs. C'est important de le rappeler.
C'est une asymétrie qui est fondamentale dans cette lutte. Hein.
Et le troisième élément, c'est évidemment ensuite de défendre la régulation, donc le DSA, le DMA, etc., et de défendre cette régulation qui protège notre débat. Voilà. Et donc, ça fait aussi partie des attributions.
Et alors, puisque Fabrice Eppelboin a soulevé à peu près 12 fois la question, il faut vraiment que je vous la pose, c'est quoi les circuits de validation avant de poster un mème, un détournement, une image fabriquée par IA et un gag sur X.
Alors, on ne pose pas que des mèmes. Hein. Parfois, on va poster des images, parfois, on va poster juste des faits, des histoires de chiffres, etc. Il va y avoir toute une équipe de veille, y compris dans notre réseau diplomatique, qui va en détecter des signaux faibles, etc. Et ensuite, il y a une autre équipe qui va analyser à la fois la viralité et la gravité de l'information. La viralité, parce que ce qu'on veut éviter, c'est le fameux effet Streisand, c'est-à-dire qu'admettons qu'il y a une information qui n'est pas très bonne ou qui est très mensongère, etc. Si on va la reposter là-dessus, on va lui donner la viralité qu'elle n'avait pas.
Bon, exactement.
Ça, on veut éviter. Et puis ensuite, c'est vraiment du cas par cas. Mais c'est un schéma qui va être très réactif, qui inclut, les différentes hiérarchies pour qu'on puisse pouvoir être dans le tempo.
Le mot de la conclusion, Fabrice Eppelboin, vous voulez ? Hop !
Ça va être très intéressant à observer. On a une dissymétrie complète. Si les Américains répondent, pour l'instant... Ils ne prennent pas en compte cette initiative française, mais en cas de confrontation et avec l'élection présidentielle, ça serait étonnant qu'on n'en ait pas une, on va vraiment avoir les armées de trolls. Et là, ça va être beaucoup plus intéressant. On va avoir la puissance MAGA avec des millions de rednecks américains qui, eux, savent faire des mèmes depuis une génération contre ce qu'on est en train de mettre en place en France avec une petite armée de trolls qui est plutôt faite d'intellectuels qui écoutent France Inter, pour le coup.
pour l'instant.
Et qui va devoir répliquer à ça. Donc la bataille va être épique.
Je vous remercie beaucoup tous les deux, Fabrice Eppelboin, et je vous remercie aussi, merci au ministère des Affaires étrangères d'être venu au micro de France Inter expliquer cette initiative French Response. Vous restez avec nous dans la grande matinale, c'est un rappeur canadien qui s'appelle Loud et qui chante sans retenue.
Sport vol au-dessus des nids de poule. Top down like I free the nipple. Ces rappeurs sont mes fils, c'est des népos. S'ils ont la vision, c'est parce qu'ils sont sur mon épaule. Bright light, ça a l'air d'être du CGI. Mais les gars font du vrai dos, pas du CDS. On mettra pas des freebies dans le frigidaire. Donc le prix d'aujourd'hui, c'est pas le prix d'hier. Few stacks sous l'oreille, new Ralph, pas l'oreille, l'esque. J'ai mes factures payées, j'ai la coiffure pénilesque. Elle a les good looks et les good looks. Nouvelle définition de l'être cher. Lifestyle qui l'a corrompu. Elle dit qu'elle aime pas les rappers, ça tombe bien, moi non plus. Je retiens mon souffle s'il y a de la jalousie dans l'air. Je retiens les noms s'il y a des faux parmi les frères. Je prends soin des miens, pareil que je retienne ma mère. Mais pour le reste, sans retenue. Sans retenue. Sans retenue. Sans retenue. Sans retenue quand on flex, fuck a humble brag. Sans retenue quand ton ex m'en un autographe. Sans retenue quand on retire off a handle cash. Couple racks pour elle et lui, ça c'est des couple racks. Straight out of Copenhague. Sans retenue quand on cut, we just popping tags. Faut traverser la planète pour voir ses shopping bags. Tous mes copycats devront trouver leur propre swag. Nuage de laine en mon americano. J'suis dans la Chevy Tahoe, j'réfléchis à voix haute. Est-ce que j'me paye le soleil pour la nouvelle année? Pour toutes ces années où j'rêvais de voir un silver lining. Quand j'avais 100 rêves mais j'étais sans revenu. J'pouvais même pas get une job ou même une entrevue. Maintenant j'l'ai fait payer pour le privilège. Le prix d'aujourd'hui c'est pas le prix d'hier, c'est sans retenue. Few stacks sous l'oreille, new Ralph, pas l'oreille, l'esquête.
J'ai mes factures payées, j'ai la coiffure peignée.
Loud, son nouvel album 12 sur 12, c'est du rap, c'est canadien. Et vous avez reconnu un léger accent québécois à mon avis. Il est 9h46, merci à tous d'écouter France Inter. Charline Vanhoenacker, Daphné Burki autour de la table.
Bonjour,
bonjour, bonjour. Et la nouvelle tête qui vient de prendre place dans le studio. Charline, la justice américaine a rendu public vendredi de nouveaux documents de l'affaire Epstein avec des milliers de noms impliqués ou pas du tout impliqués, dont des personnalités françaises. Ah
oui. La liste des noms éclaboussés par l'affaire Epstein est interminable. La cancel culture va finir en burn-out. On ne va pas revoir Élise Lucet avant 2028. Et quand elle va revenir, ça va faire mal. Presque tous les pays européens sont impliqués. L'affaire Epstein, ça crée une sorte d'union européenne de la délinquance sexuelle. Voilà. Le seul nom qu'on ne trouve pas dans la liste, c'est Xavier Dupont de Ligonnès, je pense. On dira ce qu'on veut, mais Epstein, il savait fédérer. Voilà, l'ignominie, c'est rassembleur. Alors cette affaire a évidemment scandalisé tout le monde, et notamment Jean-Marc Morandini, qui s'est demandé bah, « Pourquoi moi je suis pas dedans ?» Ah bah dégoûté,
c'est pas encore
dégoûté. Ah bah je suis plus j'ai mon courant des bons plans moi. Que vous, je suis tombée sur un nom et une info sortie dans Mediapart. Attention, je cite. La fille de Jack Lang a monté une société offshore avec le pédocriminel dans les îles Vierges. C'est pas fini. C'est pas fini. Jeffrey Epstein qu'elle a rencontré grâce à Woody Allen. Oh, facile. C'était Polanski ou Luc Besson, Woody Allen. Ça va. Vous voyez, ces deux phrases, pourtant, sont purement factuelles. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir pioché des mots au hasard dans un cauchemar de conspirationnistes. Ouais. Mais non. Pourtant, les conspirationnistes complètement obsédés par les élites pédosatanistes sont à fond sur le dos. Hein. 3 millions de pages, 180 000 photos, mais ils ont tout vu, tout lu en un week-end. C'est un petit peu leur texte sacré à eux. Vous voyez. Jack Lang lui-même est cité parce qu'il a bien connu Epstein et il l'assume complètement. Mais il ajoute qu'en apprenant ses agissements, Jack est tombé de l'armoire. Attention au cul du fémur, Jack. Non, mais rassurez-vous, Daphné, il n'a rien de cassé. À part sa dignité, bien sûr. Alors, cela dit, dans la famille de Jack, comme plein de gens qui ont côtoyé Epstein, d'ailleurs, hein, tous savaient qu'il avait été condamné pour viol sur mineur en 2008. Mais ils ont continué à rendre visite jusqu'en 2019. Ils se sont dit, bah, depuis 2008, les mineurs sont devenus majeurs. Ça compte plus. D'autres expliquent qu'ils ne le connaissent pas tant que ça. Ils le connaissent juste comme homme d'affaires. Et le trafic d'êtres humains, c'était juste un loisir. On n'est pas obligé de connaître les loisirs de nos fréquentations, après tout, hein, c'est vrai. Hein, je ne sais pas vous, mais moi, quand je ne connais pas trop les gens, je ne vais pas passer un week-end sur le reel. Mais après, je n'ai pas les codes de ce monde-là, c'est vrai. J'ai juste remarqué que les très riches qui ont du pouvoir, ils veulent absolument se faire inviter chez des gens encore plus riches qu'eux, auxquels ils donnent encore plus de pouvoir. Vous voyez, Daphné, je ne connais pas vos loisirs, par exemple. Hein, vous faites quoi quand vous n'êtes pas à France Inter? Ah ben bah oui, bah on aimerait savoir. Alors, cela dit...
Je nettoie la litière de mon chat.
Cela dit, il y a aussi des tas de noms jetés en pâture, alors qu'ils n'ont jamais été en contact avec Epstein. Alors, j'imagine l'embarras pour ces gens. Déjà, ils sont cités dans des documents compromis. Et en plus, ton nom apparaît à côté de celui de Jack Lang. Alors le problème, c'est que certains noms ont été caviardés dans les documents. Caviardés parce que ça concerne des gens très très riches. Hein. Si ça avait été des gens comme vous et moi, on aurait merguezé, je dirais. Oh ben je tente des trucs, mais sinon on s'ennuie. Daphné, je veux pas qu'on devienne un vieux trouble avec Sonia. Voilà, alors conclusion, pour trouver du pétrole, Trump colonise la planète, alors que sur le pas de sa porte, il y a des gisements debout.
Oui, et puis caviardé, merguezé, j'ai compris, hein, Charline Vanhoenacker.
Vous êtes vite là.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Il est 9h50, nous sommes en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter et ma nouvelle tête aujourd'hui s'appelle Anthony Marciano. Il est scénariste et réalisateur. Et il a eu un rêve à l'américaine. Sonia, Charline, moi je sais pas si ça a été votre cas, mais le rêve américain, à la base, c'est une promesse presque naïve, donc hyper puissante, qui dit que peu importe d'où tu viens, tu peux devenir quelqu'un que personne n'avait prévu. Que ton point de départ dans la vie, eh ben, ce sera pas ton point d'arrivée. Et c'est exactement ça, je crois, le parcours d'Anthony Marciano. Son rêve américain, il est double. D'abord le sien, il est passé de l'industrie musicale, directeur artistique dans une grande maison de disques, au cinéma. Et pas par une voie royale, hein, pas par une école de cinéma mythique, mais en se fabriquant une trajectoire à la main. Et puis, celui qu'il raconte aujourd'hui dans son nouveau film, ça s'appelle Le rêve américain, ça sort le 18 février, et c'est l'histoire vraie de deux Français, sans réseau, sans argent, qui décident quand même qu'ils ont leur place dans un système ultra fermé, la NBA. Bonjour Anthony Marciano, bienvenue sur France Inter.
Bonjour, merci.
Alors pour vous, c'est quoi exactement le rêve américain ?
Bah après ce qu'on vient de dire, c'est vrai qu'il s'effrite un peu, mais c'est pas le rêve de l'Amérique pour moi. C'est le rêve américain, c'est rêver grand, c'est rêver au-delà des frontières, au-delà de ce à quoi on est prédestiné d'une manière ou d'une autre.
Le rêve américain, c'est peut-être aussi d'accepter de passer d'abord par « il est complètement fou celui-là » et avant de devenir « ah, mais peut-être qu'il était visionnaire ». Comme lorsque vous avez fondé, j'ai halluciné, My Major Company, c'était une idée complètement folle. Mais oui, c'est lui. Pour financer...
On était quatre.
Vous étiez quatre, vous étiez donc cofondateur. Le but, c'était donc de faire financer des artistes directement par le public sur Internet. À l'époque, ça ressemblait à une utopie. Aujourd'hui, ça paraît évident. C'était fou.
Ben, c'était une aventure incroyable où on était en poste en maison de disque et puis on a décidé de démissionner pour créer ça. Et ça s'est pas passé tout de suite. Et donc ça a été deux ans de galère où on faisait des musiques de dessins animés avec des paroles et tout ça. Et puis on a fini par y arriver.
Et vous vous souvenez de votre première fois, de votre premier action ?
Je me souviens tout simplement parce que je l'ai pas dit. Je ne savais pas qu'il fallait dire action. Et donc, le comédien, qui était lui très rodé, attendait. Et je me dis, mais pourquoi il ne part pas ? Et en fait, on me dit, il faut dire action. Et je ne savais pas.
Votre première fois, avant de réaliser votre rêve américain, ça pourrait peut-être être le jour où on vous a offert une caméra à l'âge de 13 ans. Ou alors, la première fois, c'est peut-être le jour où vous avez réalisé votre premier long métrage, Les Gamins, écrit avec votre ami Max Boublil, dans lequel il joue. Ou alors, la première fois, ça s'est passé peut-être avec Alain Chabat.
Bah, c'est Alain Chabat qui m'a ouvert les portes de cette nouvelle vie dans le cinéma parce que j'avais pas du tout réfléchi à réaliser ce film. J'avais écrit ce film et j'avais pas du tout réfléchi à le réaliser. Je faisais le tour des réalisateurs pour leur proposer et je disais à Alain, voilà ce qu'ils me disent et je suis pas trop d'accord à cet endroit-là. Et Alain m'a dit, bah, tu devrais le réaliser toi. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré pour moi.
C'est lui qui vous a donné l'impulsion. Vous aimez les récits à la française qui rayonnent dans le monde. Vous dites quand Jean Dujardin gagne un Oscar, quand Stromae ou les Daft Punk font danser la planète. Vous dites que vous avez l'impression qu'ils gagnent un peu pour vous aussi. Je trouve ça joli. Et est-ce que c'est cette idée-là qui vous a fait rêver en grand quand vous êtes tombé sur cette histoire vraie, donc de deux Français, de deux agents majeurs de la NBA, Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana?
Complètement. C'est deux personnes qu'on n'est pas censé connaître. C'est des gens de l'ombre. Et derrière les basketteurs, je voyais toujours dans les photos deux gars, toujours les mêmes. Et je me disais, mais qui sont ces gars-là ? J'ai creusé un petit peu et là, je comprends que c'est leurs agents et qu'ils sont français. Et je me dis, mais que font deux agents français en NBA ? Et j'ai commencé à me renseigner sur leur parcours. Et là, il y avait une histoire incroyable qui n'est faite que d'échecs. Et moi, c'est ça qui m'a inspiré, c'est les échecs successifs et le fait qu'ils aient jamais lâché pendant 20 ans pour arriver là où ils sont.
Ça s'appelle Le Rêve américain. Vous en avez fait un film avec Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard, bande annonce.
Notre force à nous, c'est le contact avec le joueur.
Comment tu veux que je signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA ?
Tu veux commencer par le haut du panier direct ?
J'ai un gars de 2m13 là, c'est une machine de guerre.
On est à poil, on n'a rien.
Ah ouais, je vous imaginais pas à ce niveau-là de galère, mais ok.
We just want to show you our player.
L'échec, c'est la clé de la réussite.
T'as un optimisme, mon frère, c'est une maladie.
Pourquoi fallait raconter cette histoire, Anthony ? Est-ce qu'il fallait donner justement l'autorisation d'avoir un rêve américain au public ?
Mais je pense que souvent on s'empêche de faire plein de choses juste parce que c'est pas sous nos yeux et qu'on se dit donc c'est pas fait pour nous. Et ces gars-là, ils m'apprennent qu'en réalité, si on a un rêve et qu'on travaille pour et qu'on sait exactement où on va, il n'y a personne qui peut nous dire qu'on n'y arrivera pas.
Ça représentait quoi la NBA pour vous ?
Alors la NBA pour moi, donc la NBA pour ceux qui ne savent pas, c'est la ligue de basket américaine, c'était Michael Jordan qui était affiché partout dans ma chambre et moi j'avais mon petit panier accroché sur ma porte et j'étais persuadé que je faisais la même chose que lui quand je mettais le ballon dans le panier et je n'avais pas réalisé que je ne mesurais pas 2 mètres, que je n'étais pas noir et que je n'étais pas aussi talentueux que lui. Et pour moi c'est tout ça, c'est qu'il m'a inspiré bien au-delà du sport.
Je vous ai proposé une carte blanche et vous vouliez me lire un petit texte, une petite lettre, il me semble.
Voilà, alors, C'est pas de la littérature, mais c'est tout aussi impactant.
Vous allez nous expliquer ce que c'est après.
Bonjour Brian, désolé pour le délai de la réponse. Nous avons eu l'occasion d'en discuter en interne et malheureusement, nous ne pensons pas que ce soit une bonne opportunité pour nous d'un point de vue investissement. Le potentiel de marché ne nous a pas semblé suffisamment important pour correspondre à notre modèle et à nos critères d'investissement. Merci de nous avoir présenté ce projet et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite, bien cordialement. Et donc ça, c'est Brian, c'est un des fondateurs de Airbnb qui a reçu ça.
Qui a reçu
un... C'est génial.
Très beau refus.
Il avait l'idée d'Airbnb et il s'est fait jeter son projet.
Et ça, c'est un mail parmi les 12 qui lui ont été refusés en termes d'investissement. C'est et donc génial. Voilà, moi, c'est des leçons
c'est
de
la
vie
première fois
ça.
qu'on nous sert une lettre de refus en carte blanche.
Ben, ça allait avec l'idée du film. Ben, mon film raconte exactement ça. Donc,
l'échec, voilà. C'est la réussite, en fait.
La foirade.
Et c'est irrésistible, d'ailleurs, ce film. C'est qu'on se fait embarquer par l'énergie des deux héros. Parce qu'on regarde pas juste une réussite, on ressent leur amitié, leur foi un peu folle, leur mouvement en avant, et ça donne un film qui a du cœur. Vous m'avez confié dans vos références de cinéma que vous aviez comme réalisateur Steven Spielberg ou Richard Curtis, qui a écrit « Quatre mariages, un enterrement », le journal de Bridget Jones ou encore « Coup de foudre à Notting Hill », c'est pour ça qu'on entend la musique de ce film. Et on comprend pourquoi, je comprends votre rapport avec lui. Curtis, c'est évidemment l'émotion des liens humains. Quand vous réalisez, qu'est-ce qui vous dévore le plus ?
Je me place en spectateur en fait quand je réalise, et donc je cherche vraiment l'émotion qu'aura le spectateur quand il sera dans la salle, et c'est pour ça que j'ai réussi à faire ce métier sans vraiment l'apprendre. C'est parce que je me considère être vraiment de l'autre côté, et donc voilà, ce qui me dévore, c'est réussir à créer des émotions sur un plateau pour les retranscrire dans le film.
Et ça passe par la bande originale du film, Sonia Charling, qui est assez génial et qui provoque une grande palette d'émotions, de la musique que vous avez composée, parce qu'il sait tout faire, donc Anthony Martiano.
Co-composée avec D12.
Et qu'on félicite. Et sur le choix des titres comme I Wish de Skillo. Quand on transforme une histoire en vrai film, comme dans Le Rêve américain, on transforme aussi la réalité en récit collectif. Vous êtes en tournée partout en France en ce moment, et je tiens à le dire pour les auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez vous inscrire à des avant-premières, c'est assez génial en général, cette ambiance très particulière qu'on y trouve. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les réactions du public ?
C'est une récompense incroyable. On fait vraiment ce travail pour ça, c'est pour aller voir les réactions des gens dans les salles. Et puis c'est des gens qui me disent je vais ramener mes enfants pour qu'ils voient ce film. Je veux qu'ils voient ce film parce que ça leur apprend tout ce qu'on leur apprend pas à l'école, et ça leur apprend que quand on travaille, c'est possible et qu'il faut pas s'arrêter à ce qu'on a sous les yeux.
Vous avez une dédicace ce matin au micro de France Inter ?
Ah bah oui, parce que alors, c'est ma maman qui écoute beaucoup France Inter, donc je t'embrasse maman, et voilà.
Nous aussi on l'embrasse.
Ça s'appelle Le Rêve américain et c'est en salle le 18 février. Merci.
Merci les amis, c'est la fin du mag de la grande matinale. Dans un instant, Ali Rebéi, un mot sur votre sujet, Ali.
Alors certains, bonjour à toutes et à tous, certains parlent d'horreur, de jungle, de roulette russe, ça s'appelle Parcoursup. ça concerne les parents, les lycéens, n'hésitez pas à nous raconter votre Parcoursup. J'attends les lycéens au 01 45 24 7000 et également les parents. À tout de suite.
À tout à l'heure.